les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Tilman Villette, Alexandre Marlier.
Aujourd'hui, pour son dossier, Cindy va nous parler des experts à Las Vegas, n'est-ce pas Alex?
Faut-il effectivement encore présenter les experts? Nous avons vu arriver ces dernières années sur nos écrans toute une flopée de séries policières basées sur le scientifique, mais il faut bien avouer que les experts sont le plus grand succès du genre point de vue audience. Alors qu'elle entame sa 10e saison, cette série canado-américaine est créée par Anthony Zeucker et diffusée aux États-Unis depuis le 6 octobre 2000 sur les réseaux CBS et CTV. Elle arrive en France en septembre 2001 sur TF1. On parle bien évidemment des experts Las Vegas, mais des spin-offs de cette série ont été réalisés. Il s'agit des fameux experts Miami et Manhattan. Bien que nous connaissons les ingrédients de cette série, nous pourrions néanmoins nous en mêler les pinceaux entre les trois. Pour nous en parler aujourd'hui, Cindy Willem.
Bonjour.
Alors Cindy, pourrais-tu nous rafraîchir la mémoire sur les experts Las Vegas?
Oui, eh bien les experts Las Vegas, ce sont les enquêtes menées par la brigade de nuit de la police scientifique de Las Vegas. Cette brigade a à sa tête le chef Jill Grissom, qui est entouré de ses coéquipiers. Avant de passer au personnage, j'aimerais revenir un instant sur la construction de la série. Comme bon nombre de séries judiciaires du moment, les experts vont à chaque fois tenter de résoudre une enquête criminelle à chaque épisode. Donc on va essayer de trouver le meurtrier et les raisons de son crime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, la série a toujours la même trame narrative. Dans chaque épisode, on va avoir la même construction. Par exemple, au début, pendant quelques minutes, un teaser sur le lieu du crime, on va découvrir un corps. Ça va par exemple être des touristes qui se baladent sur une plage, qui vont découvrir une main ou un corps ensanglanté, ou une femme de ménage qui va nettoyer un bureau et qui va tomber sur un corps aussi, ou une femme morte dans les toilettes d'un bar. Donc ici, c'est vrai qu'on est à Las Vegas, donc on va souvent se retrouver soit dans le désert, soit dans des bars, des clubs de striptease. Et donc, une fois qu'on a découvert ce corps, on va voir arriver les experts, donc l'équipe de Grissom, qui vont tenter de comprendre ce qui s'est passé dans un premier temps par rapport à ce qu'ils remarquent et comment ça s'est passé.
C'est à ce moment-là, en fait, que tout l'attirail commence à être sorti. Donc, on a les lampes torches, les sortes de poudre pour faire apparaître les empreintes, le produit pour faire apparaître le sang, etc. C'est toujours le même rituel, plus ou moins, une fois qu'ils arrivent sur la scène de crime aussi.
Oui, voilà, toujours le même rituel. Et c'est vrai que il y a juste quelques minutes, ensuite il y a le générique qui va arriver, le générique des Who, et puis seulement c'est vrai que tout l'attirail va ressortir, comme d'habitude, ce sera la même chose, on aura les différents personnages qui ont des spécialités différentes, certains vont s'occuper du sang, d'autres de caractère visuel, de certaines choses.
Donc on est clairement ici devant un formula show, c'est-à-dire que chaque épisode reprend toujours la même formule, début, milieu, fin, et c'est une constante qu'on retrouve dans quasi chaque épisode.
Ils poussent même le formula show à chaque fois avant le petit générique, sortir la petite phrase, la petite punchline amusante, soit Gil, soit Catherine qui sort aussi toujours sa petite phrase amusante.
Ouais, voilà, juste avant le générique pour bien lancer le truc. Mais bon, c'est vrai que généralement c'est une histoire, ça peut arriver aussi qu'il y en ait deux histoires de crimes qui sont un peu parallèles et qui vont être menées par des enquêteurs différents. Donc on va avoir dans un épisode une alternance de ces crimes, mais aussi une alternance entre les scènes scientifiques, donc le fait de rechercher des indices sur la mort, et aussi une alternance avec les interrogatoires, avec les suspects possibles. Et tout ça va continuer jusqu'à ce qu'on résolve l'enquête.
Le but ici, c'est clairement de mettre le malfaiteur derrière les barreaux, quel que soit le moyen utilisé, c'est-à-dire le moyen scientifique, les interrogatoires, mais c'est surtout le côté scientifique, évidemment, qui est mis en avant ici.
Oui, davantage l'aspect scientifique qu'autre chose, parce que c'est vrai qu'on a vu dans le passé beaucoup d'enquêtes judiciaires dans ce genre-là, même Columbo, où il y avait toujours aussi la même trame narrative, mais on veut se centrer sur le scientifique et c'est ce qu'on va mettre en avant, et justement, je pense que c'est ce qui va attirer les téléspectateurs avec cette série, ça va vraiment être le point fort.
Oui, c'est clair qu'ici, on est loin de Columbo qui traîne son vieux cigare un peu partout, au milieu des preuves et qui détruit au fur et à mesure de son avancée. D'ailleurs, je crois que dans la majeure partie des épisodes de Columbo, on parle pas d'empreintes digitales ni de toute autre technique pour retrouver le coupable. C'est vraiment la déduction qui prime. Or ici, c'est plutôt le scientifique qui est mis en avant, avec évidemment la déduction, Grissom qui s'amuse avec ses insectes, et qui en déduit que le mort est mort à telle date, tel jour et telle heure, et qui permet évidemment d'avoir des preuves contre le malfaiteur qui a tué la personne.
Oui, voilà, je pense que c'est vraiment la tendance du moment dans les séries policières aujourd'hui.
Je crois que ce qui a marché auprès des gens aussi, c'est que il y a toujours le fantasme du scientifique qui permet de tout expliquer. C'est un petit côté parfois science-fictionnel donné par les experts qui permet aussi d'attirer l'œil et de donner envie. On se dit, oh, on espère que ça serait comme ça dans la réalité.
Mais d'un autre côté, c'est ce qui est aussi critiqué parce que il y en a beaucoup qui disent que ça se passe pas du tout ainsi à l'heure actuelle. Même s'il y a certains éléments qui peuvent se rapprocher de la réalité, c'est vrai que c'est exagéré, je pense. On ne peut pas aller si loin dans la science pour pouvoir retrouver un meurtrier.
Et c'est même parfois poussé jusqu'à l'extrême, notamment, et ici on prend le cas d'à côté, les experts Miami, où depuis quelques saisons, ils ont des écrans d'ordinateur sans écran, ce qui est totalement science-fictionnel et qui, voilà quoi, ça ne sont que des prototypes et on ne sait pas pourquoi eux auraient ce type d'écran en priorité par rapport à d'autres. Il faut se dire, dès qu'on regarde une série de ce type-là, qu'on n'est pas devant la réalité et que la plupart des solutions qu'ils proposent prennent en général beaucoup plus de temps que le temps qu'ils mettent pour trouver les solutions aux crimes perpétrés.
D'où le néologisme ADN minute.
Oui, surtout qu'ici, chaque histoire va être bouclée à la fin de l'épisode ou de deux épisodes maximum.
Et on a toujours quelqu'un derrière les barreaux, hein. C'est rare quand ils échouent.
Toujours, oui.
Oui, j'ai jardiné ce week-end. Pourquoi tous nos faits et gestes vous intéressent-ils tant, brusquement? Depuis quand doit-on justifier tout ce que nous faisons?
Depuis que votre fils est mort sur ce parking.
Quand vous étiez dans le jardin, le petit Joshua était-il avec vous? Non.
Si, souviens-toi. On s'est même disputé. C'est ton tour, Vicky. Ça fait 4 heures que je m'en occupe.
Parce que maintenant, tu comptes les heures. C'est aussi ton fils, je signale.
Oh, tu jardines au travail, à la maison. Arrête un peu et garde-le. C'est ton tour. Tiens, merci.
Tu as vu les jolies fleurs, chérie? Oui, je me souviens. Mais immédiatement après, on est rentré et j'ai amené Joshua à l'intérieur.
Vous vous êtes lavé les mains?
Écoutez, je ne me rappelle plus. J'ai l'habitude de jardiner et je me lave souvent les mains.
J'ai eu l'occasion de parler à votre pédiatre, le docteur Garner. 2 jours avant la mort de Joshua, vous êtes allé à son cabinet complètement affolé parce que vous craigniez que votre deuxième fils soit également atteint de la maladie de Tay-Sachs.
On avait fait le test prénatal. Le docteur nous a dit qu'il n'y avait aucun risque.
J'imagine ce que vous avez dû ressentir au moment où vous avez cru que le cauchemar recommençait. Le premier bébé, puis le deuxième.
Saviez-vous que des enfants exposés de façon répétée, même à faible dose, à certains pesticides toxiques, peuvent manifester des symptômes caractéristiques d'une atteinte du système nerveux, similaires aux symptômes de la maladie de Tay-Sachs?
Incapacité à tenir sa tête, dos voûté, cécité, hypotonie musculaire, difficulté de déglutition.
Vous utilisez régulièrement des pesticides, Madame Winston, au travail et dans votre jardin. Vous avez tenu Joshua dans vos mains et c'est sans doute lors de ce contact que les pesticides sont passés dans l'organisme du bébé. Et j'imagine aisément ce qui a pu se produire ensuite.
Non, Paul. Je ne veux pas revivre l'enfer que j'ai vécu avec Howard, non.
Attends le résultat des examens.
Non, plus d'examens, plus de tests, plus de traitements, plus d'enfants. Je ne veux pas recommencer. Jamais je ne pourrai. Et tu ne pourras pas le supporter non plus.
Vous avez donné du sirop pour la toux à Joshua, Monsieur Winston. Pourquoi?
Peut-être tout bêtement pour qu'il ne souffre pas.
C'est bon. Ça va aller.
Vous ne savez pas ce que c'est de regarder mourir son enfant.
On ne pouvait pas revivre ces horreurs.
Si seulement vous aviez attendu un peu. Les examens que le docteur Garner avait demandés sont négatifs. Joshua n'avait pas la maladie de Tay-Sachs. Vous avez tué un enfant en parfaite santé.
Mmh.
souvent une conclusion dans les experts un peu ironique ou un peu cynique, hein, on remarque malgré tout.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord avec la fin d'un épisode. Des fois, ça nous reste un peu, on se dit zut alors. Mais oui, donc c'est vrai qu'ici, on était dans les dernières minutes de l'épisode. L'enquête est bouclée. C'est vrai qu'on est dans la saison 4, mais bon, même en ayant vu un seul épisode, en prenant la série à ce stade-là, on peut très bien comprendre sans avoir vu les épisodes précédents. Et je pense que c'est justement le point fort de la série aussi, c'est qu'on peut très bien se mettre devant la télé, il n'y a rien à la télé, il y a les experts, c'est toujours chouette à regarder, et puis c'est vrai que ça peut attirer les téléspectateurs. Je pense que c'est vraiment le point fort de la série.
Ça permet de séduire un public qui n'a pas envie non plus de se retrouver enchaîné à sa télévision chaque semaine, je pense. Hein. Donc, des amateurs plutôt d'un épisode de temps en temps. C'est vrai que c'est une bonne série pour ce type de public-là.
Et en même temps, pour les aficionados, il y a quand même un fil rouge qui est derrière, même s'il est parfois très très peu exploité dans certains épisodes. On a quand même la relation entre Kyle Grissom et Sarah Seidel qui permettent de casser un peu la monotonie pour les gens justement qui sont accros à la série et qui la regardent du premier au dernier épisode.
C'est vrai que pour les téléspectateurs d'un soir, ça va plutôt être les personnages secondaires, donc les personnages qui vont se retrouver dans l'histoire de l'épisode qui vont être importants, leurs problèmes, ce genre de choses. Mais maintenant, si on suit vraiment la série, c'est vrai que les personnages principaux ont aussi certaines complexités et en apprenant à les connaître, on verra qu'ils ont certains secrets, qu'ils ont un passé houleux parfois. Et donc justement, je pense que c'est le moment de venir un peu au personnage, le chef de la brigade qui est Kyle Grissom. Ce personnage est interprété par William Peterson qu'on a pu voir dans Police fédérale Los Angeles. C'est le superviseur de l'équipe. À la base, il est biologiste, mais il va avoir la possibilité de remplacer Jim Brass, qui était à la tête de la brigade auparavant, qui s'est un peu retiré à l'épisode 2 de la série suite au meurtre d'Holly Grips. Maintenant, c'est vrai que Grissom va être un personnage plutôt introverti, on va le connaître peu. C'est d'ailleurs son trait de caractère, il a peur d'être percé à jour, il va pas beaucoup exprimer ses sentiments. Donc c'est vrai que dans la série, par rapport aux enquêtes menées, il va pas beaucoup avoir de réaction face à ce qui se passe. Il se fait juste que le travail soit bien fait et qu'on s'en tienne aux faits, ne pas faire d'erreurs sur les suspects.
C'est amusant de voir qu'un personnage finalement aussi introverti et renfermé ait eu une aussi grosse aura sur la série, puisque ça a été le personnage qui avait le plus de charisme de toute la bande, je pense. Et même peut-être de toute la série des experts, même avec les spin-offs inclus.
Oui, c'est certainement celui auquel on s'attache le plus, je pense aussi. Maintenant, il va quitter la série justement à la saison 9. Il va être remplacé, enfin, en quelque sorte remplacé par Laurence Fishburne qu'on a pu voir dans Matrix notamment.
C'est bien la preuve que la place de Grissom est très importante puisque l'audience ne suit plus depuis que Grissom est parti. Ils vont tenter justement de la relancer avec le retour de Sarah Seidel, mais Grissom parti, je ne suis pas sûr que ça n'annonce pas à petit feu la mort de la série progressive.
Oui, c'est sûr. Maintenant, heureusement que les autres personnages sont encore là, notamment Catherine Willow, qui est la deuxième personnage principale de la série, on va dire. Catherine Willow est interprétée par Marge Helgenberger. Catherine est la spécialiste dans l'analyse des taches de sang. C'est aussi la collaboratrice la plus expérimentée de Grissom. Maintenant, au fur et à mesure des saisons, on va voir qu'elle a eu aussi un passé assez difficile. Elle a dû travailler comme stripteaseuse pour payer ses études en criminologie. Elle n'a pas toujours eu la vie facile. Elle est née d'une mère danseuse de cabaret. Son père était propriétaire de plusieurs casinos de Las Vegas. C'est vraiment une fille de la ville. C'est vrai que quand il s'agit d'une enquête sur les casinos, sur les bars, ça n'a aucun secret. Pour elle, elle est plutôt dedans. On va aussi apprendre qu'elle a été toxicomane à un moment, lorsqu'elle était stripteaseuse. Un autre trait particulier de ce personnage, c'est qu'elle a une fille qui est élevée par sa maman. On se rend vite compte que cette relation avec sa fille va avoir un impact sur les enquêtes qu'elle-même. Genre quand les enquêtes vont parler de kidnapping ou justement du bébé mort dans la voiture, qu'elle va se rapprocher de sa fille, se dire « je devrais peut-être être un peu plus là pour mon enfant ». Et donc c'est ce qui est un peu touchant dans ce personnage aussi.
Un point qui est intéressant de remarquer aussi avec le personnage de Catherine, c'est que souvent quand il y a des épisodes en rapport avec l'âge, la beauté, la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit, elle est toujours fortement ciblée et se pose beaucoup de questions si elle doit justement rajeunir, faire plus jeune ou peut-être plus se rapprocher de son rôle de mère, de femme au foyer.
Un autre personnage principal de cette série est Sarah Seidel, l'experte dans l'analyse de matériaux. Sarah Seidel est interprétée par Georgia Fox. C'est une jeune fille brillante, elle est diplômée d'Harvard, c'est la petite dernière de l'équipe. On va remarquer aussi qu'elle a quand même certains soucis dans sa vie privée, vu que dans la saison 4, on voit qu'elle a une dépendance à l'alcool. On va lui imposer une thérapie pour résoudre ce problème. Elle n'a pas eu une enfance facile non plus, vu que on va dévoiler dans la saison 5 que son père battait sa maman jusqu'à la poignarder à mort un jour. Et donc ce passé va un peu expliquer pourquoi elle a du mal à rester objective face à certaines enquêtes qui impliquent de la violence conjugale.
Elle va aussi surtout se rapprocher de Grissom.
Oui, elle est secrètement amoureuse de lui depuis un moment. Et dans la saison 8, justement, Grissom va la demander en mariage et elle va accepter. Donc à partir de ce moment-là, elle va un peu disparaître de la série. Elle reviendra dans la saison 10 pour quelques épisodes et définitivement dans la saison 11.
Dans une berline rouge, une femme blanche âgée de 32 ans environ, voyageant avec un homme blanc d'âge indéterminé.
Cette femme est en danger. Lancez tout de suite un avis de recherche du nord au sud de l'État.
À vos ordres, j'alerte toutes les unités.
Bien.
Catherine Willows.
Warwick Brown.
Les services sociaux ont envoyé un médecin pour l'enfant.
Que les choses soient claires, les meurtres ont eu lieu à Las Vegas. Il s'agit de nos victimes, c'est nous qui relevons les indices.
J'ai dit qu'on avait un médecin, pas un saboteur d'indices.
Je vois que nous nous comprenons.
L'avenir nous le dira.
Pour son père, elle est au courant?
Pas encore.
J'aimerais me mettre au travail. La fillette, vous l'avez retrouvée où?
Elle était assise là-bas, par terre. Et voici la jeune demoiselle en question, vous pouvez y aller.
Merci. Bonsoir, Sacha. Je m'appelle Catherine Willows. J'ai quelques questions à te poser. Tu veux bien y répondre? Ça, c'est ma mallette magique. Le monsieur, il t'a touché?
Il a tapé maman.
Oh. Et toi, est-ce qu'il t'a tapé? Il a fait des choses? Il a essayé de te faire mal?
On aurait dit qu'il me voyait pas.
En général, les gens méchants, on arrive à les attraper parce qu'ils laissent derrière eux des petits bouts d'eux-mêmes. C'est comme ça que tu vas pouvoir nous aider à retrouver ta maman. Maintenant, il faudrait que je regarde sous tes ongles. Tu me montres ce que tu as dans la main?
Montre-lui.
Où as-tu trouvé ça?
Après, ils sont partis et je suis revenue sur la route. J'ai ramassé ça par terre.
Je parie que ça devait être froid dans ta main.
Non. C'était très chaud. Vous me faites marcher?
Une fille rusée comme toi? J'oserais pas.
Nick Stokes est interprété par George Etz. C'est le spécialiste dans l'analyse des cheveux et des fibres. Donc c'est un personnage assez émotif, un tempérament assez romantique, mais c'est aussi le plus carriériste de l'équipe. Concernant son passé, nous savons que c'est le fils d'un juge texan, mais dans la saison 2, on apprendra aussi qu'il était agressé sexuellement quand il était enfant par sa nounou. Personnellement, je trouve que c'est un des personnages les plus plats de la série.
Le jeu de l'acteur n'est pas non plus super évolué, il n'a pas non plus 25 expressions sur son visage, quoi. Donc c'est vrai que c'est un personnage assez monolithique finalement. Au contraire de tous les autres qui ont justement des caractères très affirmés, lui est peut-être un peu en retrait.
Ce qui fait qu'on ne va pas spécialement s'attacher à ce personnage, je trouve. Son ami, c'est Warwick, donc Warwick Brown, qui est l'afro-américain du groupe. Lui est le spécialiste des analyses audiovisuelles. Warwick, il est natif de Las Vegas, donc il connaît bien cette ville. Il a même développé une dépendance au jeu qui a failli lui coûter sa carrière. Maintenant, Warwick ne va pas rester, vu qu'on remarque au début de la saison 9 qu'il meurt. Et c'est à ce moment-là, lors de sa mort, qu'on apprend qu'il avait en fait un enfant. Donc c'est vrai qu'ici, donc, de nouveau, on se retrouve à Las Vegas, ce qui nous amène à des thèmes tels que la sexualité, qui est souvent explicite. Les mœurs sont assez violents, donc on est vraiment dans le milieu de l'argent, du jeu, du sexe, des stripteaseuses.
On est d'ailleurs parfois assez étonné de découvrir un Las Vegas que les images d'Épinal ne nous montrent jamais, c'est-à-dire qu'en général, on voit les grands casinos, les salles de spectacle immenses, et on voit pas les bas-fonds. Et effectivement, on est parfois étonné de se dire « Ah tiens, c'est vrai, il y a aussi des habitants qui habitent à Las Vegas. Il n'y a pas que les casinos et les gens qui y travaillent, il y a aussi des gens autour de Las Vegas qui y vivent. » On quitte un peu l'image d'Épinal qu'on a l'habitude de Las Vegas, en tout cas.
Oui, c'est vrai. Généralement, c'est Las Vegas, c'est un peu les paillettes, c'est tout ce monde. Et puis, on se rend compte qu'il y a aussi des choses affreuses qui s'y passent. Donc, c'est vrai qu'ici, on est dans une série, on peut le dire, adulte. D'ailleurs, je pense que le fait de n'interdire la série au moins de 10 ans est assez justifié.
Alors, on le comprend bien. Tu aimes regarder cette série. En tout cas, c'est peut-être pas ta série préférée, mais c'est quelque chose que tu aimes regarder de temps en temps.
Oui, voilà, c'est peut-être pas une série que je suivrai vraiment épisode après épisode, mais le regarder à la télé, c'est vrai que c'est toujours super chouette. Et puis le fait que ce soit une histoire différente à chaque fois, c'est aussi suivre les personnages en question dans les épisodes qui est intéressant. Mais bon, je pense que je ne suis pas la seule à avoir aimé cette série, vu que c'est une des séries les plus regardées au monde, si pas la plus regardée. Le succès de la série a amené des réalisateurs plus connus aussi, notamment Tarantino, qui a réalisé un épisode des Experts à Las Vegas. Il a réalisé le final de la saison 5, un double épisode qui s'intitule Jusqu'au dernier souffle.
Qui est d'ailleurs sorti en fait en DVD totalement à part de la série, comme une sorte de film.
Et on va voir l'apparition de guest star aussi.
Justin Bieber.
Justin Bieber, voilà, on en parle beaucoup pour le moment, qui va arriver dans la saison 10. Mais on a pu voir aussi le chanteur du groupe Train dans Les Experts Manhattan. Et puis donc voilà, vu le succès de la série Les Experts Las Vegas, ils en ont un peu profité pour sortir leur spin-off Miami et Manhattan. Et justement, ces spin-offs vont être lancés par Les Experts Las Vegas, vu que à la fin de la saison 2, dans l'épisode 22, la mort dans tous ses états, on va voir Catherine et Warwick qui vont se rendre à Miami, justement pour une enquête, et qui vont rencontrer Horatio. C'est assez intéressant de voir les différents personnages mélangés dans le même épisode.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.